Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titane Mag, avec la complicité de l'ami éclairé.
Dominique.
Avec nous au micro et de l'ami fidèle Laurent à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent. Le printemps prend sa large respiration et nous confie le souffle de ses couleurs par des images parfumées. Il nous met ainsi l'esprit tout en joie et en espérance de bien-être. L'extérieur joue sur l'intérieur. L'on se devait de proposer pour illustrer ce moment magique qu'est le printemps une plasticienne qui nous habille les yeux et nous force à les maintenir ouverts pour regarder sans gêne et sans honte ce que peut-être nous n'aurions jamais osé. Ces recherches du vrai et du juste, de l'espace toujours plus grand, dépassant les frontières pour rejoindre le moi et les autres, nous interrogent. Catherine Grangier-Durandard nous aidera à comprendre sa quête et son parcours qui se trouve libératoire. Catherine Grangier-Durandard, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'autant plus que vous venez de descendre d'un avion qui vous ramène du Danemark. Si je ne me trompe. Donc tout d'abord, mais qui faisiez-vous au Danemark et comment avez-vous été reçue ?
Bonjour. Alors j'étais au Danemark pour une exposition collective à laquelle je participais, qui s'appelait Body Talk. Et c'était une exposition dans le nord du Danemark, dans un tout petit village, Ebeltoft, mais qui est une tradition du travail du verre. Et c'était une exposition centrée sur le travail du verre et en rapport au corps. Et j'avais une œuvre qui participait à l'exposition.
Alors, quelle est cette œuvre ?
Elle s'appelle Jardin secret. Et c'est une œuvre composée de 100 petits pots en verre dans lesquels il y a du sable et dans chacun une fleur de tampax qui pousse. Alors aussi 100 parce que, à cause du jeu sur les sons, parce que 100, le chiffre 100, c'est comme le mot 100. Donc voilà.
Catherine Grangier, vous explorez en tant que plasticienne, mais que recherchez-vous dans cette exploration ? Quelle est votre quête et que désirez-vous trouver ?
Alors, ce que je désire trouver, je ne sais pas bien. Je pense que, en fait, ce qui me pousse à créer, c'est que je suis tout le temps en train de chercher quelque chose et que ben, si je savais ce que je cherche, peut-être que j'arrêterais. Et voilà, je cherche un petit peu à me trouver moi ou à me situer par rapport à la société ou à comprendre, à me comprendre et...
Et qu'est-ce qui nourrit cette quête ? Qu'est-ce qui vous donne cette envie de recherche, mais de vous et des autres ? Parce que je pense que chez vous, c'est très important d'avoir le regard de l'autre. D'ailleurs, on se retrouve dans l'autre regard.
Je pense que déjà, c'est parce que mon travail, c'est lié à ce que je suis. Donc je suis une femme. Donc c'est aussi lié à ma position de femme par rapport à déjà à ma famille et puis après dans un cercle plus large à la société. Et du coup, c'est un travail sur l'intime, mais en même temps, ce que j'aimerais, c'est arriver à, avec des questions très intimes, des détails, aussi élargir ma sphère privée à quelque chose de plus large, de plus...
Alors, est-ce que c'était une curiosité de petite fille ?
Je ne sais pas.
La petite fille est devenue femme et...
Toujours curieuse.
Oui, toujours curieuse.
Je pense que c'est aussi un petit peu jouer ou remettre en question les histoires qu'on nous raconte quand on est une petite fille. Et en fait... Quand on arrive à l'âge adulte, est-ce que vraiment ça tient la route, ces contes de fées ? Est-ce qu'on rencontre forcément un prince charmant ? Comment après on peut vivre avec ce qu'on nous a raconté et comment on a intégré ça et comment on...
Parce que votre univers, c'est quand même l'univers de la femme, dans son quotidien, dans ses objets, dans ses souffrances, dans tout ce qui lui peut lui apporter de la joie aussi. Et comment vous est venue cette idée, cette orientation dans votre travail?
Je pense que c'était pas vraiment quelque chose de conscient. Enfin, c'était pas un choix. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais travailler sur la femme. C'était vraiment quelque chose qui est arrivé, enfin, qui était peut-être déjà sous-jacent un petit peu dès le début, peut-être moins présent, mais c'est arrivé avec peut-être la naissance de mes enfants. Et puis, voilà, c'est vraiment parce que je suis une femme et c'était mon ressenti ou...
Voilà, c'était aussi travailler sur soi-même aussi
peut-être. Oui, c'est aussi ça, bien sûr. Et puis, sur l'image qu'on a de soi, et ce que les autres perçoivent, et puis ce qu'on imagine que les autres perçoivent, après tous ces degrés, ces espèces de couches de perception.
Parce que vous avez fait les Beaux-Arts de Genève. Est-ce qu'aux Beaux-Arts de Genève, il y avait déjà cette idée-là?
Je pense qu'elle était un petit peu là, l'idée de l'apparence, de l'image qu'on a et de ce qu'on réfléchit par rapport aux autres, et puis aussi un petit peu de l'intimité, parce que j'avais aussi pas mal travaillé sur l'architecture et sur les bâtiments, les intérieurs. Mais c'était, je pense, moins présent que maintenant.
Et comment fonctionne cet imaginaire? Recherchez-vous à refléter justement une certaine réalité? En bref, comment vous viennent les sujets au fur et à mesure que vous traitez? Le lieu a beaucoup d'importance.
Souvent, un petit peu par rapport à des propositions qu'on me fait ou à des appels à projets ou comme ça. Et du coup, ça me pousse à réfléchir ou à m'orienter dans certains domaines auxquels j'aurais pas vraiment et dans lesquels j'aurais pas forcément été au départ. Et puis après, oui, en fonction du lieu, j'aime bien travailler par rapport à l'histoire du lieu ou son architecture, ou aussi pour pas avoir l'impression d'arriver puis de poser une œuvre et de repartir. Enfin, que ça soit quelque chose qui soit intégré, qui soit voilà, qui prenne en compte le lieu de l'exposition. Et puis ça m'oblige aussi à découvrir peut-être des choses que j'aurais pas fait sans ça. Donc c'est aussi intéressant pour moi. Enfin, une espèce de contrainte, un peu comme Georges Perec ou les Loulipo, comme ça, qui se mettaient des contraintes pour écrire. Voilà, pour moi, c'est une espèce de contrainte dans ce sens-là, positive.
Parce qu'on sent que vous aimez les histoires. Alors, je voudrais savoir, toute petite, qu'est-ce que vous lisiez?
J'ai lu plein de choses très différentes, en fait. Parce que mon père lisait beaucoup et du coup, quand il aimait un livre, il me faisait lire. Donc j'ai lu des livres, j'ai lu plein de livres, déjà, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment des livres pour enfants, où j'ai, je pense, sûrement pas tout compris au départ, mais où j'ai pioché des choses qui après... J'ai lu beaucoup de livres, des histoires plutôt... pas du tout féministes ou féminines, ou plutôt des histoires... de guerre, des Robert Merle ou des histoires de... Ouais, voilà, d'histoires de... Je sais même... j'ai de la peine à dire comme ça, mais j'ai beaucoup lu et des choses très différentes aussi, parce que j'ai aussi lu de la littérature plus pour enfants, des contes, des Jules Verne, des choses... voilà, c'était très mélangé, mais je lisais beaucoup, enfin, j'étais tout ce que je trouvais, plus ou moins. Donc après, c'était un espèce de mix...
C'était pas les petites filles modèles.
Je les ai lues aussi. Ouais.
Les mots ont beaucoup d'importance pour vous.
Oui. Oui, parce que j'aime beaucoup lire me raconter en tout cas des histoires et du coup les mots et aussi le jeu avec les mots, enfin tout ça. C'est aussi important pour moi que les images. Enfin, c'est quelque chose qui fonctionne ensemble.
Mais on a l'impression que vous aimez établir un lien entre une image, pour faire court, et puis des mots. Et pourquoi ce rapprochement?
Alors, j'aime bien aussi pour l'espèce d'espace que ça peut provoquer entre l'image et le mot, quand le mot, enfin, pas vraiment redondant par rapport à l'image, et que du coup ça laisse, comme ça ouvre une nouvelle porte pour l'imaginaire, et en fait c'est ça qui m'intéresse.
Une question qui n'est pas une question piège, quand vous imaginez quelque chose, une représentation graphique quelconque, c'est quoi qui est premier? C'est le mot qu'il imagine ou c'est l'image elle-même qui s'impose?
Ça dépend des fois, en fait. Mmh. Des fois, c'est... par exemple, récemment, j'étais un peu comme ça, en manque d'inspiration, et j'avais l'impression que je tournais en rond, que j'arrivais pas... Puis j'ai fait une série de photos avec une amie qui habite en Norvège, pardon. Et du coup, on correspondait par Internet, on s'envoyait des photos. Et puis elle m'avait envoyé une photo où elle tenait elle-même dans ses mains une carte postale, où on voyait une peinture avec une tête coupée de mouton sur une assiette. Et du coup, cette image, je me suis dit, ça, je sais pas, j'ai commencé à réfléchir par rapport à cette image. Et l'expression « sans queue ni tête » m'est venue. Et du coup, après, avec cette expression, j'ai fait toute une série de dessins en utilisant les expressions, des groupes de mots liés à queue et liés à tête, comme la tête dans les nuages ou queue de poisson, mais des expressions qui avaient un peu des doubles sens, comme ça. Mais voilà, c'est... Une image qui a entraîné des mots qui ont entraîné d'autres images. Après, des fois, c'est un peu...
Est-ce que c'est ce que vous avez utilisé dernièrement à la librairie Majolire pour y donner cet atelier autour justement de la linogravure et des mots? Comment vous y êtes-vous prise? Est-ce que c'est un peu ce que vous venez d'expliquer?
Alors, pas tout à fait. À la librairie Majolire, j'ai été invitée à exposer par rapport aux 10 mots qui sont donnés pour la semaine
la
langue française. Et là, l'idée, c'était d'essayer de proposer aux gens de travailler autour d'un de ces mots et de créer une image par rapport à un de ces mots. Mais quand je fais des ateliers, j'ai toujours du mal à imposer un thème parce que... Pour moi, c'est quand même assez important qu'il soit libre. Donc, du coup, voilà, j'avais proposé un petit peu de créer une image par rapport à un mot. Mais après, il y a eu des choses très différentes qui sont...
Quel était le mot?
C'était les 10 mots, en fait, qui étaient proposés pour la France.
Mais j'ai l'impression, en même temps, que les personnes, quand on vient dans un atelier, ont besoin qu'on les dirige, qu'on leur donne de la matière. J'ai cette impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand elles se sentent trop libres. Enfin, des fois, elles ont un peu du mal. Mais là, il y avait déjà une contrainte technique un peu avec la linogravure. Donc, c'était déjà des indications plus par rapport à la technique et qui limitaient déjà un petit peu la création de l'image. Parce qu'en plus, le temps était assez court. Donc, c'était...
Et en quelques mots, la linogravure, on peut peut-être expliquer...
Alors, la linogravure, c'est une technique de gravure. C'est des plaques de lino qui ne sont pas les mêmes que ce qu'on utilise pour mettre par terre. C'est de la poudre de liège avec de l'huile de lin sur une trame. Et en fait, on grave le lino avec des gouges et les parties qui sont enlevées ne seront pas ancrées, donc resteront blanches et ça fait un espèce de tampon. Donc c'est...
On en revient toujours au tampon, hein.
I'm expecting you. Was saying yesterday to somebody you know that you were due. The frogs get home. Settled and at work, birds mostly back, the clover warm and thick. You'll get my letter by the 17th. Reply, or better be with me. Expecting you.
sur Couleur FM 97.1 avec notre invitée Catherine Grangier-Durandard. Nous venons d'entendre une chanteuse israélienne, Efrat Ben-Zur, de l'album Robin, et c'était Bi que nous venons d'entendre, une adaptation des poèmes de Emily Dickinson. C'est un choix de vous, Catherine. Et ce choix, pourquoi ?
Alors, c'est parce que c'est pour un petit peu illustrer de façon musicale mon lien avec la littérature. Et je trouve que d'avoir choisi de transposer en musique les poèmes d'Emily Dickinson, c'est aussi un petit peu ma façon de... ça résonne un petit peu avec ce que je fais quand je travaille, quand je crée des choses où j'ai souvent des références littéraires.
Alors, Catherine Grangier-Durandard, vous faites donc de la linogravure, mais vous avez aussi des techniques mixtes. Par exemple, pour votre cendrillon est fait en fleurs de tampax, sur du riage, avec des épingles, du papier. La robe pour une journée sentimentale est faite avec des cartes postales, des lettres, du ruban, des fils, des becs de plumes. Vous avez aussi du papier mâché, du fil, des collages, du plexiglas. Je voudrais savoir comment se fait cette création. Est-ce que c'est l'idée qui donne le matériau, ou le matériau qui vous... qui induit donc l'idée, ou vice-versa?
ça dépend aussi des fois des circonstances. Mais souvent, c'est... j'ai une idée, puis il faut que j'utilise le matériel qui va le mieux marcher avec cette idée. Donc souvent, c'est l'idée qui entraîne le matériel. Mais en général, j'utilise quand même... J'aime bien utiliser des matériaux très quotidiens, aussi des matériaux qui sont un peu liés à l'intimité et à l'intérieur. Et puis, il y a la linogravure qui est quelque chose qui revient assez souvent. Ça, c'est une technique que j'aime bien, qui me permet de reproduire des images. Et j'aime bien cette idée de travailler aussi en série ou en introduisant des petites variations d'une image à l'autre. Mais d'arriver aussi à travailler avec la série. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être des fois parce que j'ai de la peine à me détacher de ce que je fais. Donc, quand j'ai des séries, je peux en garder une de la série.
Et votre matériau préféré, en avez-vous ? Enfin, votre ou vos ? Matériaux, le papier, est-ce que c'est
j'aime bien utiliser des matériaux assez légers, assez faciles à il y a une question aussi de transport, de stockage et tout ça, donc pour ça le papier c'est assez pratique. Puis j'aime bien aussi détourner des objets qui sont apparemment très banal et leur redonner, pour permettre aux gens de poser un autre regard sur eux, de jouer aussi un petit peu avec les apparences. Et puis sinon, le dessin, c'est quand même toujours quelque chose de très important pour moi, parce que même dans la linogravure, il y a du dessin. Et puis quand je réfléchis à des projets, j'écris beaucoup, mais je fais aussi beaucoup de croquis. Enfin, les croquis, c'est aussi quelque chose qui fait partie de mon quotidien, de dessiner.
Vous dessinez d'abord avant de créer l'objet.
En général, en général, oui.
Oui. Avec les proportions.
Ouais. Après, des fois, j'ai fait des croquis. Après, le résultat final, des fois, il ressemble pas du tout aux croquis, mais au départ, en général, j'ai des croquis.
Et dans les couleurs, il y a beaucoup de rose, beaucoup de rouge.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rouge. Mais je ne sais pas très bien pourquoi, en fait, c'est une histoire de fil rouge, quelque chose pour ne pas me perdre.
Encore la couleur du sang aussi, non ?
Peut-être aussi, ouais.
Et le rose aussi, la couleur des petites filles.
Couleur des petites filles.
Oui, mais c'est vrai que c'est très intéressant, tous ces matériaux comme ça, assemblés, qui totalement détournés, quoi. Vous détournez les objets.
Mm-hmm. Ah oui, c'est aussi, par rapport aussi à ce qu'on perçoit et en fait ce que sont réellement les choses et l'image qu'on en a. Enfin, c'est aussi ça, de détourner les objets pour moi, c'est de changer un petit peu.
On a l'impression d'une grande diversité dans votre production. Est-ce qu'elle est voulue ? Est-ce que ce sont les circonstances qui...
Oui, je pense que c'est les circonstances. Puis, c'est aussi que j'ai... enfin, j'ai besoin de me, enfin, de me mettre un petit peu à l'épreuve, ou je sais pas, voilà, de pas avoir l'impression de me répéter et tout ça. Après, je trouve que ça perd son intérêt. Enfin, quand je vois là, j'ai épuisé quelque chose, il faut que je passe à autre chose. Que
ouais,
je...
Donc, l'envie d'explorer des secteurs que vous n'avez pas visités jusque-là.
Puis c'est vrai que suivant. Enfin, les thématiques, ou les, enfin, c'est toujours un peu les mêmes thématiques, mais suivant les œuvres, vraiment, il y a des choses qui, enfin, pour moi, fonctionnent mieux dans, en trois dimensions, ou en, avec de la vidéo, ou des choses à plat. Enfin, après, c'est un...
Quelles sont vos influences? Est-ce que d'autres femmes plasticiennes vous ont inspiré? Ou est-ce que vous vous reconnaissez dans le travail d'autres artistes?
Ah ouais, j'ai plein de plein d'idoles. par exemple pour l'utilisation des objets et tout ça, il y a Meret Oppenheim qui est une surréaliste un petit peu et qui a beaucoup utilisé des objets en les détournant. Après, il y a évidemment Louise Bourgeois qui est ma grande.
C'est votre idole.
Ouais, une de mes idoles qui est.
Est-ce que vous pouvez nous parler de son travail?
Elle travaille aussi beaucoup par rapport à son enfance, à son vécu, mais aussi par rapport à la femme et à être une artiste femme aujourd'hui. Puis ce qui me touche aussi beaucoup dans son travail, c'est qu'elle a commencé à être vraiment connue quand elle avait 70 ans. Donc je me dis, comme ça, j'ai encore du temps. C'est...
Oui, et aussi Valoton aussi, non?
Ouais, alors ça, oui, Valoton par rapport à la gravure et à la linogravure, ça j'aime beaucoup son travail. Aussi parce que ces tableaux et ces gravures, c'est à chaque fois pour moi comme une espèce d'histoire. Enfin, c'est des œuvres dans lesquelles on peut beaucoup s'inventer des... Puis il a aussi utilisé un petit peu le texte dans ses gravures, très peu, mais en mettant des titres dans la gravure. Donc ça, je trouvais intéressant aussi.
Et parlez-nous aussi des estampes japonaises.
Ça, c'est aussi par rapport à la gravure. Et puis par rapport aux représentations aussi des femmes dans leur quotidien, comme Okuzai ou Hiroshige ont beaucoup représenté des femmes. Et puis les motifs, enfin j'aime aussi beaucoup les motifs des tissus, et comme l'image des fois, ça c'est aussi par exemple Bonnard ou même parfois Valoton, mais qui ont utilisé des intérieurs où les motifs des vêtements se mélangent avec les motifs des papiers peints, des rideaux et tout ça.
Matisse aussi.
Comment vous est venue cette vocation? Est-ce que c'est une recherche pour vous dans la vie? Parce que vous avez fait les beaux-arts, mais vous n'avez pas tout de suite été dans ce milieu-là. Vous avez un peu fait un circuit entre-temps.
En fait, je pense que j'ai tout le temps fait un petit peu ça. Après, c'était un peu je sais pas, les circonstances de la vie où je me suis... plus ou moins, j'ai tout le temps fait des choses pour moi. Après, c'était pas toujours évident de les montrer parce qu'il y a le travail de trouver des endroits pour exposer, de trouver des... Et ça, c'est quelque chose qui est toujours assez compliqué. Donc, il faut arriver à dépasser ça. Donc ça m'a pris un certain temps.
Oui, c'est se dire quand est-ce qu'on est prêt à lâcher, à lâcher un travail. Et ça, ça prend plus ou moins du temps et on doit le sentir.
Ouais. En même temps, je pense que quand on fait quelque chose, on a quand même toujours, dans le fond, envie qu'il soit vu. Donc c'est difficile de s'imaginer rester dans son atelier à produire, puis mettre dans des cartons, puis refaire quelque chose de nouveau qu'on remet dans un carton. On a quand même toujours dans le fond envie de le montrer, mais après, des fois, c'est difficile de faire la démarche, de trouver où le montrer.
Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on fait le tour des galeries? Est-ce qu'on regarde des projets, les appels à projets? On répond aux appels à projets? Concrètement, comment ça se passe?
Alors, moi, pour faire le tour des galeries, je suis très mauvaise. Il faudrait le faire. Je pense que, voilà, ça marche quand même des fois. Mais ça, c'est quelque chose que je sais très mal faire. Donc, pour moi, c'est plus facile de passer par l'écrit et par les appels à projets, d'envoyer des dossiers, enfin, d'avoir un premier contact comme ça, pas direct. Pour moi, c'est plus facile. Mais après, je pense que ça dépend beaucoup des artistes.
Comment est-ce que vous percevez le regard de ceux qui viennent vous voir, viennent voir ce que vous avez produit sur vos productions? Est-ce que quand on donne quelque chose de soi qui est très personnel, voire intime, peut-être que la parole du spectateur peut mettre mal à l'aise, non?
Ouais, ça peut mettre mal à l'aise. Après, c'est souvent quand on expose, enfin j'ai l'impression, qu'on est déjà un petit peu détaché de ce qu'on a fait. C'est déjà comme un enfant qui a grandi, qui est déjà un peu indépendant et on a une espèce de recul par rapport à l'œuvre. Et elle vit déjà sa propre vie. Mais c'est vrai que les réactions des spectateurs, quand elles sont négatives, de toute façon, c'est blessant parce que c'est difficile de se dire ça c'est mon œuvre, ça c'est moi, et puis de voilà, quand ils disent quelque chose c'est pour elle, c'est pas pour moi. C'est de toute façon on est touché.
Oui, parce que vous vous exposez en fait, dès que vous montrez vos œuvres, vous vous exposez.
Oui, puis je pense que je montre des choses que ça reflète, je pense, des choses de moi que quand on me croise dans la rue, c'est des choses que les gens voilà, c'est pas des choses qui sont sur moi, c'est plus des choses intérieures qui... Donc c'est sûr que c'est plus intime.
Est-ce que ça vous met en danger?
Un petit peu, je pense. Mais c'est aussi ça qui est intéressant, parce que si ça me mettait pas en danger, peut-être ça perdrait de son intérêt. Après, c'est aussi cette mise en danger qui me permet d'avancer et de...
Ça voudrait dire que la création artistique... C'est une prise de risque?
Je pense, ouais.
Ouais.
Je pense que c'est un peu quelque chose comme marcher sur un fil, où voilà, on est toujours un petit peu...
Et en même temps, c'est une provocation? On provoque une réaction de toute façon.
Ouais. Mais enfin, moi, je ne le vis pas quand je fais des choses, je ne le vis pas comme quelque chose où j'ai envie de provoquer le spectateur. Enfin, il n'y a pas comme dans les années 70 où il y a eu beaucoup de performances ou comme ça, qui étaient vraiment à but de provocation. Moi, je ne le fais pas comme ça, mais c'est sûr que ça provoque des réactions.
Par exemple, quand vous exposez les petites culottes, qu'est-ce que ça donne?
Alors ça, c'est...
comme les tampons, d'ailleurs.
C'est très... Il y a des réactions très différentes. Il y a des gens qui sont choqués et il y a des gens qui sont étonnés. Mais en général, les réactions sont quand même plutôt positives. Enfin, dans mon travail, ce que j'ai envie de susciter chez les gens, c'est peut-être une réflexion, mais je n'ai pas envie que ça soit quelque chose de lourd et de... Voilà, j'ai envie d'arriver peut-être plus subtilement, plus légèrement. Plutôt en par le biais peut-être de l'humour ou d'arriver à quelque chose, mais peut-être dans le fond qu'il les fasse réfléchir, mais pas arriver.
Oui, il y a beaucoup d'humour et de fantaisie dans votre travail.
Oui.
Ouais, c'est aussi peut-être un lien toujours avec l'enfance et puis avec une façon de voir le monde, rester un peu curieux et de se poser tout le temps des questions. Enfin, moi, je doute tout le temps quand je fais des choses. Je ne suis jamais sûre de moi et de ce que je vais faire. Donc
C'est un peu un jeu.
Ouais, c'est un peu un jeu.
Soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort, je vous ai porté des fleurs. gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur. celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
FM 97.1 avec notre invitée Catherine Grangier. Nous venons d'entendre Anne Sylvestre dans Une sorcière pas comme les autres, du même nom que l'album. Pourquoi ce choix Anne Sylvestre, Catherine?
Alors Anne Sylvestre parce que c'est une chanteuse qui a marqué mon enfance aussi bien par ses chansons pour enfants que mes parents qui écoutaient aussi Anne Sylvestre de ses autres chansons, donc c'est quelque chose qui est... Et puis j'aime beaucoup ses textes, sa réflexion par rapport aux femmes, et m'intéresse beaucoup, donc voilà, je suis très sensible.
Si vous permettez, Catherine, nous allons passer au coup de cœur des lecteurs. Voici notre coup de cœur des lecteurs avec Majolire, les passeurs de mots, partenaires de nos passions, complices de nos découvertes, avec le porte-parole Dominique Molin. Merci Dominique de nous conter votre choix à nous faire craquer l'ossature.
Alors, il y a quelques jours, nous avons reçu pour un Tidanmac spécial Sylvie Gracia, qui venait nous parler d'un livre un petit peu particulier qui mêlait habilement texte et photos, le livre des visages. Mais Sylvie Gracia, qui est éditrice au Rouergue, elle dirige la collection La Brune, elle a aussi une production romanesque. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une parenthèse espagnole. C'est un livre qui est paru aux éditions Verticales en 2009. Selon moi, un très beau livre. Un récit à la première personne. Le roman raconte le quotidien d'un homme en train de divorcer. Professeur sans passion, il s'approche des 50 ans. Les souvenirs affluent. Une amante d'un jour qui a sombré dans l'alcool et qui débarque alors qu'il n'est pas chez lui, les espoirs d'une génération sans idole, un mariage heureux qui s'effiloche, deux filles qui grandissent, Fred, l'ami de toujours, qui travaille à l'hôpital. Tout cela s'entremêle dans une prose subtile qui conjugue habilement présent et passé en une réflexion douce-amère sur la vie, le temps qui passe, l'importance de l'amitié, le besoin de reconnaissance, l'amour. Livre de peu, le cinquième roman de Sylvie Gracia est en même temps un bouquin magnifique qui dit si bien ces moments du présent qui s'entrechoquent avec les images venues d'un temps révolu ou d'un espace lointain, ces moments qui font que le quotidien ne rime jamais avec grisaille. Sylvie Gracia écrit son livre « Les yeux grands ouverts ». Elle aime la vie, elle s'empare des détails les plus insignifiants pour leur donner du sens. Une pochette vue à la FNAC d'un disque de Patti Smith, une friche industrielle, la ville, les cafés... Ces gosses qui viennent lorgner la décapotable et qui la trouvent sale. On n'est jamais dans la banalité d'un quotidien sans issue, simplement un de ces moments où la vie est là, un peu derrière soi, mais également devant. On essaye d'y mettre de l'ordre, on n'y arrive pas toujours, peu importe, on continue. Alors je vais lire un petit extrait de ce livre qui, encore une fois, est magnifique. Le personnage principal a une décapotable rouge qui est toujours garée dans la cour de l'immeuble. Régulièrement, des collégiens tournent autour. Un jour, il leur donne de quoi la laver parce qu'il lui a fait la remarque que cette voiture était sale. Et quand ils ont fini, il leur offre du coca et les emmène faire une virée dans Paris. À l'arrière, les garçons n'avaient rien écouté de mes discours. Ça jactait à tout va. Leurs mots étaient mangés par un débit rapide. Leur langue fonctionnait à la connivence, entrecoupée en permanence de rires, de mouvements brusques, tapés dans la main de l'un, poussés l'autre contre la banquette, criés parce qu'on a cru voir disparaître au coin de la rue un copain et sa mère. D'un mouvement brusque de la tête, Katia leur a demandé de se calmer un peu. « Hé, on n'est pas dans un bus !» Et pour la première fois, j'ai entendu la voix d'Alphonse s'adresser directement à moi. « Elle est trop vieille, votre voiture, monsieur !» Depuis que nous avions démarré, j'avais senti son regard fixé sur moi via le rétroviseur. Et sa voix était d'un sérieux déconcertant, venant d'un enfant que j'avais vu tout l'après-midi s'éclabousser d'eau. Le feu venait de passer au rouge, je me suis tourné vers lui. Il devait avoir tout juste 10 ans. Son visage, maigre et sec, semblait déjà avoir trouvé ses lignes de fuite, et cela était accentué par le noir profond de sa peau. « Trop vieille, J'ai répondu mi-ironique, mi-fâché, sachant combien, dans la langue actuelle, le « trop » pouvait être d'admiration, trop vieille, trop belle, trop classe. « Tu vas voir, petit. » Alors, sitôt le feu passé au vert, j'ai embrayé nerveusement, sûr de moi comme ces jours optimistes où, dans le miroir, je me vois libre et riche de ce que je n'ai pas encore vécu. Vous allez comprendre ce qu'elle est capable de faire, cette vieille bagnole, et ils ont applaudi.
Et donc, il passe toute une avenue dans Paris ou
dans Paris, où il s'amuse à caracoler entre les voitures, les motos, etc. Au grand bonheur des enfants qui sont derrière.
Tu peux nous rappeler le titre ?
Alors, oui, pardon, Sylvie. Une parenthèse espagnole de Sylvie Gracia aux éditions Verticales. C'est un bouquin de 220 pages qui est paru en 2009.
Et le prix ?
Et le prix, 17,75 €.
Ça va.
C'est le genre de littérature qui vous plairait de lire, Catherine Grangier ?
Oui, oui, j'ai lu le livre des visages de Sylvie Gracia. Et oui, j'aime bien. Je lis pas mal, en fait, d'écrivains femmes. Mais bon, aussi les hommes. Mais oui, j'aime bien ce regard qu'elle porte sur le quotidien, sur la vie.
Et ça, c'est actuel. C'est tout à fait du moment.
Et c'est un peu votre travail en même temps.
Ben oui. Oui, c'est... Enfin, c'est intéressant aussi de retrouver dans d'autres, comme dans la littérature ou dans la musique ou dans d'autres domaines, les mêmes préoccupations, enfin les mêmes interrogations qui reviennent.
Est-ce qu'il y a une période pour cela ? Ça peut être du Virginia Woolf, ça peut être du contemporain comme Sylvie Gracia. Vous circulez dans un peu toutes les époques, je vais dire.
Ouais, je circule dans pas mal d'époques, mais je lis quand même beaucoup de littérature contemporaine.
Et j'avoue que c'est dur de rester à flot, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes qui se livrent à nous.
Alors nous avons parlé, Catherine Grangier, de votre travail basé sur la femme et son quotidien. Mais vous, en tant qu'artiste plasticienne, quel est votre quotidien ?
C'est un quotidien de femme.
artiste aussi.
Mais c'est... du coup, une journée, ça peut être très... parfois, je fais des ateliers dans les écoles, j'interviens dans les écoles. Parfois, je donne des ateliers aussi dans des maisons de quartier ou dans des musées, dans des bibliothèques. Après, il y a aussi mon travail chez moi. Mais mon travail chez moi, il est très... De toute façon, j'ai tout le temps un espèce de petit coin de ma tête qui est en train de travailler non-stop. Donc, que j'ai des idées et je peux être en train de faire la vaisselle ou en train d'étendre la lessive ou dans la voiture. Voilà, il y a tout le temps. Et puis après, il y a des moments où je suis plus à mon bureau ou en train de réaliser.
Et vous travaillez tous les jours ? Tous les jours, vous allez dans votre atelier ?
Ouais, je travaille tous les jours. Je n'ai pas vraiment d'atelier, en fait. C'est plus un espèce de... d'espace, une mezzanine chez moi. Donc, je suis toujours très perplexe entre l'envie d'avoir un vrai atelier à l'extérieur pour aussi me dire, voilà, je vais travailler. C'est comme d'avoir plus aussi une reconnaissance en me disant, je vais comme un lieu quand on va travailler. Et puis, la facilité d'avoir quelque chose chez moi où je peux être en train de faire autre chose, faire à manger. Puis d'un coup, je me dis, ah, mais ça serait une bonne idée d'aller faire 10 minutes dans mon atelier, un petit croquis, quelque chose, et de revenir. Donc voilà, je suis toujours un petit peu partagée.
Est-ce que c'est une souffrance entre femmes et artistes, d'être justement partagée ou au contraire, l'une stimule l'autre ?
Je pense que c'est une stimulation, mais en même temps, c'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est une souffrance, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre tout le temps. Enfin, c'est quelque chose qui est toujours... On se sent toujours un peu tiraillé. Mais c'est aussi, je pense, par rapport au regard qu'on pose sur les artistes et les femmes artistes, peut-être encore plus.
Votre famille a-t-elle accepté votre situation ? Vous pousse-t-elle ?
Ils ont accepté parce que de toute façon ils n'avaient pas vraiment le choix parce que c'était quelque chose que voilà pour moi c'était il fallait que je fasse
c'était
ça
évident
mais Après, je pense qu'en tout cas,
ils adhèrent.
Tout petit, est-ce que vos fils avaient un regard particulier parfois sur votre travail?
Pas vraiment. Pour eux, c'était normal que je fasse ça. Alors que c'est vrai que quand ils allaient chez des copains ou comme ça, que tout d'un coup, peut-être qu'ils voyaient un peu la différence entre une maman qui étend des tampax dans la cuisine. Mais ils n'avaient pas... Enfin, des fois, ça les gênait aussi, je pense, quand ils arrivaient au collège, l'âge du collège, où tout d'un coup, il fallait être rentré un peu dans la norme et d'avoir des parents qui faisaient des choses un peu bizarres. Pourquoi on n'a pas des parents comme tout le monde? Ouais.
Avec Catherine Grangier-Durandar, notre invitée du jour, nous venons d'entendre l'Orchestre Tout-Puissant de Marcel Duchamp, qui est un groupe suisse, et nous sortons la chanson Tralala de l'album Rotoror. Alors j'ai peut-être déjà, Catherine, donné la réponse en parlant d'un groupe suisse, en vous demandant pourquoi ce choix.
Parce que je suis à moitié suisse et j'ai vécu à Genève, c'est là que j'ai été aux Beaux-Arts. Donc voilà, c'était. Puis j'aime beaucoup le titre de ce. Enfin, le nom de ce groupe, Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, c'est aussi un lien avec ma pratique artistique. Donc voilà, c'était.
Alors, Catherine Grangier-Durandar, comment voyez-vous votre évolution? Est-ce que vous vous dites, tiens, je vais aller... Enfin, parfois, on a parfois l'impression qu'on tourne en rond, on dit, où vais-je aller? Ou est-ce en faisant les choses que les choses, finalement, évoluent?
Oui, je pense que c'est en faisant que des nouvelles pistes apparaissent, mais je ne sais pas du tout en fait où je vais aller après. C'est des fois, en travaillant par exemple des dessins où je me dis, ah bah tiens, peut-être que ça serait bien en volume. Donc du coup, il y a une idée de volume qui apparaît. Mais voilà, c'est un peu. C'est aussi des fois des rencontres, enfin des gens qu'on rencontre qui font par exemple de la vidéo. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer de faire de la vidéo. Mais c'est.
Est-ce que vous travaillez en rythme avec de la musique, justement? Là, vous venez de nous amener trois choix. Est-ce que ça rythme votre travail, de la musique, ou c'est le silence?
En fait, souvent, quand je suis en train de chercher, ou comme ça, c'est plutôt le silence. Après, quand je suis dans un travail plus d'exécution, comme quand je fais de la linogravure, que je suis en train de graver, d'imprimer, ou du papier mâché, ou que c'est quelque chose de plus manuel, du coup, là, j'aime bien avoir de la musique.
Parce qu'on a parlé de peinture, mais il y a aussi une idée de volume, donc de sculpture. Vous sculptez aussi, vous êtes aussi une femme sculpteur.
Oui, mais je sculpte, enfin, j'ai toujours de la peine à me dire que je sculpte. Mais c'est vrai que je fais des choses en volume, mais ce n'est pas vraiment de la sculpture traditionnelle, mais c'est vrai que...
Alors, vous nous avez dit que les mots étaient importants pour vous, y compris dans vos productions. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir envie, l'intention d'écrire un texte?
Ouais, j'aime beaucoup écrire, et souvent j'ai l'impression que mais je pense que c'est peut-être l'inverse pour les écrivains. J'ai l'impression que quand j'arrive pas à dessiner ou à faire quelque chose plastiquement, je me dis, ah, mais d'écrire, ça me paraît tellement plus facile. Je pense que après, si j'étais vraiment écrivain, ça serait certainement pas le cas, mais j'aime beaucoup écrire, et peut-être que...
Vous pourriez vous projeter en tant qu'écrivain, vous dire je laisse pendant un laps de temps tout ce qui est matériaux, je laisse tomber et je prends la plume. Est-ce que vous l'avez déjà envisagé, ou est-ce envisageable?
Je l'ai un petit peu envisagé, mais j'avais quand même toujours, enfin j'ai pas vraiment abandonné le reste, c'était plutôt deux choses qui se côtoyaient un petit peu.
Et pourquoi pas un livre alors? Un livre mélangeant votre travail d'artiste et puis des mots, rien que des mots?
Ben ça, j'aimerais bien, ouais. Mais c'est aussi un peu le temps, et puis après de faire un livre, c'est... Après, il faut encore trouver des éditeurs, tout ça. Donc c'est aussi un peu le problème de savoir où aller quand on a un projet comme ça. Mais j'aimerais bien, c'est quelque chose qui m'intéresserait.
C'est ce que vous dites, c'est l'opportunité qui peut parfois créer l'action.
Quand on vous cherche sur Internet, quand on cherche des productions de vous sur Internet, on tombe sur un certain nombre de sites. Apparemment, vous faites partie d'un collectif d'artistes, et alors.org, c'est ça, non?
Alors ça, en fait, c'était au départ deux personnes, un couple qui avait une galerie à Lyon, et dans laquelle j'ai exposé, et après ils ont fermé leur galerie, mais ils ont continué d'avoir ce site avec les artistes de la galerie, et ils annoncent leurs activités. C'est vrai que moi j'ai pas de site vraiment pour moi, donc c'est une bonne façon.
Et quels sont vos projets?
Alors, j'ai pas de projet très avec des dates très concrètes maintenant, parce que là, je viens de faire cette expo au Danemark et une autre à Alicante en Espagne, donc c'était un peu plus quelques-unes dans la région. Mais je pense que je vais probablement refaire une expo en Espagne à Oviedo, dans une petite galerie qui vient d'ouvrir, et peut-être une à Lyon aussi, pour un projet de t-shirt.
Petit short, c'est-à-dire?
En fait, j'ai fait une série de dessins, et c'est un magasin à Lyon qui imprime des t-shirts et qui a choisi 10 de mes dessins pour les imprimer sur les t-shirts. Donc, ils vont faire un lancement de collection.
Wow. C'est super. Oui, peut-on rappeler comment vous trouvez, comment vous contacter, soit par un site où on tape Catherine Grangier, Grangier, et les choses, les pages, parce qu'il y a des pages sur le site, viennent automatiquement.
Oui, et puis sinon j'ai un blog qui s'appelle « I've got butterfly in my stomach ».
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire j'ai des papillons dans l'estomac, et c'est une expression anglaise pour dire que on a le trac, en fait, c'est avant de monter sur scène ou comme ça. Donc voilà, c'est, je suis pas très rassurée.
Peut-être une adresse électronique si on veut vous contacter directement.
Alors c'est catherinegrangier@sfr.fr.
Voilà, tout simplement. Mmh. Et si vous avez tout oublié, vous rappelez Couleur FM et vous leur demandez. Avec plaisir, on fera suivre. Et d'ailleurs, les informations également, dès que nous en aurons. Merci beaucoup, Catherine Grangier, d'avoir accepté et d'avoir fait cet effort entre l'avion et chez vous de passer par nos studios. Merci Catherine, bon vent, bonne continuation. Merci Dan.
Merci.
Merci Dom.
Merci à vous.
Et merci Laurent.
Une belle expérience.
Merci beaucoup pour nous aussi.